Nous continuons notre série sur la prière. Nous avons vu la semaine passée 14 raisons de prier. Et ce matin, nous entamons notre deuxième volet sur la prière. Et le titre du message, c'est 9 obstacles à la prière. La semaine passée, 14 raisons de prier. Et ce matin, 9 obstacles à la prière. Nous allons tourner. Nous avons pris le verset principal, un verset qui va regrouper un peu cette série sur la prière, un verset qui m'a sauté aux yeux. Dans Jacques, chapitre 4, verset 2, « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Alors, c'est un verset qui m'avait vraiment frappé. Surtout au début, « Vous demandez, vous ne recevez pas. » Alors ça, c'est le verset vraiment thème de cette série sur la prière. Ce matin, le verset que nous allons prendre, 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, où il est dit, où l'apôtre Pierre nous dit, « Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Alors, Pierre nous dit que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent faire obstacle à nos prières. Et c'est pour cette raison que ce matin, nous voyons 9 obstacles à la prière. Il y en a probablement plus, mais ce qu'on va parler ce matin, c'est les principaux que j'ai trouvés qui peuvent justement faire obstacle à la prière. Les Écritures renforment beaucoup de promesses concernant l'exaucement de la prière, nous affirmant que Dieu veut nous donner ce que nous lui demandons. Dans Psaume, chapitre 17, verset 6, « Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. » C'est une promesse. Psaume 65, verset 3, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Ô toi qui écoutes la prière. Jean, chapitre 14, verset 13, « en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Alors, il y a des promesses concernant l'exaucement de la prière. La vie chrétienne est une vie d'exaucement. Pourquoi? Parce que Dieu est un grand Dieu. Non pas pour n'importe quoi, mais les choses essentielles de la vie. Puis quand nous sommes exaucés, ça nous permet d'aller de l'avant dans notre marche chrétienne, dans notre marche spirituelle. Cependant, nous ne sommes pas toujours exaucés. Et nous concluons souvent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous pensons que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ce n'est pas toujours le cas. La prière est considérée comme un chemin pour nous approcher de Dieu. Mais le prophète Ésaïe va dire « Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » Alors, il faut justement enlever les obstacles comme Dieu nous le demande. Et dans le domaine de la prière, c'est la même chose. Les obstacles, s'arrêter. Et regarder, comprendre ce qui peut empêcher Dieu de répondre. Si on ressort de notre temps de prière frustré, découragé, on va de moins en moins vouloir prier. On va penser qu'on n'est pas à la hauteur de Dieu, que... En plus de prier, on demande au pasteur de prier, on va dire que le pasteur n'a peut-être pas l'onction. Et ça peut nous amener souvent à changer d'assemblée parce qu'on met la faute sur l'assemblée, on met la faute sur nos frères et sœurs, on met la faute sur le pasteur, parce qu'il n'y a pas de réponse à nos prières. Mais justement, le pasteur nous donne, vous donne des outils pour votre vie spirituelle. Mais ce n'est pas lui qui va vraiment, qui va répondre à la prière, c'est Dieu. Et ce qui va arriver, c'est que on va croire ce que l'ennemi veut qu'on croie, c'est-à-dire que Dieu ne répond pas à la prière. Mais est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut s'interroger ce matin, est-ce que nous avons un bon canal pour notre vie de prière? Ou bien le canal, notre canal est bouché? Et la meilleure façon de savoir si on est en règle pour l'exaucement de nos prières, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu agit comme un miroir. Quand on se lève le matin, on s'en va dans le miroir, on se regarde, on voit certaines saletés, exemple des graines dans nos yeux, des poils qui dépassent, les cheveux non peignés. Si nous n'avons pas le miroir, c'est impossible. Comment voulez-vous voir s'il y a des choses qui clochent sans regarder le miroir? Alors, c'est la même chose. La parole de Dieu nous sert de miroir. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas voir les obstacles à la prière et nous enseigner comment voir ces obstacles-là. Alors, quels sont ces obstacles-là, les 9 obstacles que nous voulons parler ce matin? Et le premier, je dirais, ce sont les mauvais motifs. On retourne dans le verset clé que nous avons, Jacques, chapitre 4, verset 2. « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Les mauvais motifs. Souvent, on a une intention égoïste. On demande pour une mauvaise raison. On demande pour une propre gratification. Il faut demander pour une bonne motivation. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors, si cela est vrai des devoirs de base de la vie quotidienne, c'est vrai pour la prière. Dans tout ce qu'on peut demander à Dieu, Dieu se doit de se glorifier. Le plus bel exemple, c'est quand, dans Matthieu, quand Jésus nous montre comment prier, il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Si nous prions pour la conversion d'un proche, il ne faut pas prier pour que on en prenne la gratification. Souvent, c'est un exemple que je donne, la femme va prier pour son mari parce qu'il n'est pas converti, et la raison qu'elle veut que son mari soit converti, c'est que ça va lui permettre, d'aller à l'église avec son mari, ça va lui permettre de pouvoir parler avec son mari des choses bibliques, et ça va être pour elle, et non pas pour lui, et non pas pour Dieu. Il faut qu'elle mette en place une prière qui va dire « Seigneur, mon mari n'est pas sauvé, mon mari est dans le péché, et le péché, toi, tu ne veux pas qu'il soit dans le péché. C'est fais quelque chose. Tu veux le faire pour lui, tu veux prier pour lui, tu veux prier pour que Dieu puisse se glorifier dans cette prière-là. Que Dieu ne soit plus déshonoré par une conduite païenne. Alors, c'est pour la personne, c'est pour Dieu. Il faut toujours en revenir à Dieu. On prie pour une moisson dans une église afin qu'il y ait de l'argent qui rentre dans l'église. C'est vraiment une mauvaise intention. Pourquoi? Parce que l'Église, ce n'est pas du prestige, l'Église, ce n'est pas une grande foule, l'Église, ce n'est pas un compte de banque, ce n'est pas une compagnie. Alors, on prie pour les mauvais motifs. On va prier pour l'Église qui ait une moisson afin que les gens soient sauvés, les gens soient enseignés dans la parole de Dieu. Demander la prière à l'Église pour un travail plus rémunérateur, alors que la Bible nous dit de se contenter de ce que nous avons. Alors, c'est antibiblique. Amen, si le Seigneur nous donne un emploi plus rémunérateur, mais il ne faut pas le demander pour satisfaire nos besoins personnels. La prière et son exaucement doivent glorifier Dieu et non pas l'homme. Alors, la première obstacle, des mauvais motifs. Deuxième obstacle, dans une vie de prière, c'est naturellement un péché dans sa vie. Ésaïe chapitre 19, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, il est bien évident qu'on voit ça dans le prophète Ésaïe, et Dieu parle à son peuple. Dieu parle à Israël et il dit, écoutez, là, il dit, je suis capable de sauver, je suis capable d'entendre, mais il y a un problème, ce sont vos fautes. Ils mettent une séparation. Revenez à moi, dit l'Éternel. Alors, il faut demander à Dieu s'il y a quelque chose dans nos vies qui n'est pas réglé, qui fait obstruction. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le roi David a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Alors, quand tu te présentes devant Dieu, Avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te rappeler ton péché. Si vraiment t'es honnête devant le Seigneur, et le Saint-Esprit, si tu ne le sais pas, le Saint-Esprit va te le rappeler. Peut-être que tu te manques une petite chose, mais le Saint-Esprit va te rappeler, il va avoir une culpabilité, et tu vas demander pardon. Il y a des gens qui vivent dans le péché et qui prient continuellement. Mais ça ne sert à rien. Devant Dieu, ça ne sert à rien. Et il y a des gens qui sont des incrédules, il y a des gens qui sont insensibles à la direction du Saint-Esprit, et il y a des gens qui sont non régénérés par le Saint-Esprit. Ils continuent à prier, mais ça ne sert à rien. Attention, frères et sœurs, de grandes églises ne signifie pas nécessairement beaucoup de prières. On voit de grandes églises aux États-Unis et c'est simplement du marketing, c'est simplement une philosophie chrétienne, c'est simplement du show-off et ça ne veut pas dire une vie de prière. Faisons attention. Et même s'il y a des gens qui prient, si la parole de Dieu n'est pas prêchée, s'il n'y a pas vraiment le pardon des péchés, la repentance, c'est seulement qu'une foule. Avec de grandes églises. Il faut confesser nos transgressions et demander pardon. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La Bible dit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Ça, c'est le livre aux Hébreux. Alors, nous pouvons nous approcher de Dieu et en toute honnêteté, en toute simplicité, nous pouvons demander au Seigneur qu'il fasse quelque chose si on a un obstacle dans nos vies, on est coupable, on a un péché, on a quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Alors, le troisième obstacle, la désobéissance. Jean chapitre 9, verset 31. Où il est dit, si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Si nous voulons que Dieu nous écoute lorsque nous prions, il faut aussi l'écouter lorsqu'il nous donne des instructions. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors, vous savez, la prière, ce n'est pas une prière répétitive, c'est pas une prière. La prière, c'est quelque chose de sérieux. Il y a des gens dans le monde qui prient beaucoup et ils n'ont pas nécessairement la grâce de Dieu. Alors, comment voulez-vous que notre prière soit efficace si on n'écoute pas ce que le Seigneur nous demande? Puis le meilleur exemple, c'est la désobéissance d'Israël dans l'Ancien Testament, alors qu'ils ont été rebelles à Dieu. Et Dieu dit, je ne vous écoute plus. Je ne réponds plus. Dans le temps de la monarchie en France, il y a un Sir Leonard Wood qui sera en France et qui veut visiter le roi de France, quand la France avait un roi. Alors, le roi est très remercié justement M. Wood, le Sir Wood, et l'invite à un souper dans son palais. Et la journée de ce souper-là, le Sir Leonard Wood se présente devant le roi, et le roi est tout étonné à son souper. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, je ne vous attendais pas. Alors, Sir Leonard Wood lui dit, ben écoutez, Majesté, vous m'avez envoyé une invitation comme de quoi je pouvais venir, vous m'invitiez à dîner, alors je suis ici. Et le roi dit, mais vous ne m'avez pas répondu, je vous ai envoyé une invitation, mais vous ne m'avez pas répondu. Alors, Sir Leonard Wood lui a dit, quand un roi nous invite à un dîner, nous n'avons pas à répondre. Nous devons obéir. Alors, voyez-vous? Alors, si le Seigneur nous demande d'obéir, il faut obéir. Et je crois que le Seigneur, c'est le roi des rois, c'est lui qui est plus que, il est sûrement plus que le roi de France, dans le temps que la France avait un roi. Alors, troisième raison, une désobéissance. Quatrième obstacle dans la prière, une idole. On va tourner dans Ézéchiel, le chapitre 14. Chapitre 14, verset 1. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? » Une idole. Les idoles, frères et sœurs, il y en avait dans l'Ancien Testament, il y en avait dans le Nouveau Testament, il y en a encore. Ce n'est pas nécessairement des statues, ce n'est pas nécessairement des images. Mais souvent, nous plaçons des idoles devant Dieu, avant Dieu. Le travail, ça peut être le travail, ça peut être un loisir, ça peut être le sport, ça peut être Internet. Ça peut être même notre femme, ça peut être même nos enfants. On peut même idolâtrer nos enfants, faire passer les enfants avant Dieu. Surtout avec la nouvelle technologie aujourd'hui, avec la télévision, avec Internet, avec les iPads, les iPhones, on connaît toutes les téléséries, mais on ne connaît pas notre Bible. Et quand on a passé à travers toutes ces téléséries-là, il ne reste plus de temps pour prier. Si on ne peut pas maîtriser ce genre de divertissement, on n'aura jamais une vie de prière. On va regarder un film à 11 heures le soir alors qu'on pourrait prier à 11 heures le soir. Ce sont des idoles. C'est très dangereux pour un chrétien. C'est une force qui nous attire vers un écran. C'est rendu un écran de télévision. Pensez-y deux minutes. C'est un écran de télévision qui est passé après ça à un écran d'ordinateur, qui est passé à un écran de iPad et un écran de iPhone. Les dieux d'autrefois sont rendus les ordinateurs, les iPads, les iPhones. Faisons attention. Ça peut bien nous servir, mais c'est très dangereux. Vous savez que vous pouvez téléphoner à Dieu? Pourquoi pas téléphoner à Dieu? Je pense que Dieu est jaloux de la manière que nous comportons devant, surtout devant les téléphones intelligents et les iPads, les tablettes. De la manière qu'on est devant ces écrans-là, puis qu'on est là, puis on les aime. C'est un exemple que je donne ce matin parce que c'est rendu vraiment un fléau dans le monde chrétien. On va se laisser déranger dans notre vie de prière par un téléphone, on va se laisser déranger par un courriel, par un message, texte. Faisons attention, frères et sœurs, sur des idoles comme ça, qu'à un moment donné, quand on a fini d'utiliser ces nouvelles technologies, il n'y a plus de temps pour prier. Les gens mettent le téléphone à côté de leur oreiller pour dormir au lieu de la Bible. Faisons attention, frères et sœurs. Cinquième obstacle, un esprit de rancune. Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Ne pas en vouloir à des gens, car cela nous amène à ne pas pardonner. Quand on ne veut pas pardonner, le ciel est fermé. Et ça, c'est une plaie dans nos églises. L'hypocrisie entre frères et sœurs, le manque de pardon. En passant, ce n'est pas parce qu'on pardonne à quelqu'un, que vous êtes nécessairement d'accord avec elle. Ce n'est pas parce que vous pardonnez à quelqu'un que vous allez commencer à la voir deux fois par semaine. Ce n'est pas parce qu'on pardonne à quelqu'un qu'on va lui sauter dans les bras à chaque fois qu'on la voit. Pardonner à quelqu'un, c'est justement obéir à Dieu et enlever la rancune, l'amertume, la jalousie. C'est vous pardonner à quelqu'un. Elle, si elle vous pardonne pas, ce n'est plus votre problème. Mais il faut être en règle avec Dieu et être en règle avec nos frères et nos sœurs. Il faut pardonner, pas avoir une rancune. Il faut bénir au lieu de maudire. Même si on n'est pas en accord avec cette personne-là, même si on peut garder nos positions, et on a le droit à nos positions, on a le droit à nos amis personnels, on a le droit à notre propre fraternité, mais il faut pardonner. Amen. Sixième obstacle à la prière, donner à contre-cœur. Proverbe 21:13, celui qui ferme son oreille au cri du faible criera lui-même et n'aura pas de réponse. Si nous fermons nos oreilles au cri du pauvre, Dieu dit dans sa parole, c'est moi qui ai fait le pauvre et le riche. Quelqu'un qui est avare de ses dons ne peut pas avoir une prière puissante. C'est impossible. Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez et l'on vous donnera. » Donnez. Ça soit de l'argent, ça soit votre temps, ça soit votre hospitalité, ça soit votre travail. La Bible dit « Donnez et l'on vous donnera. » Donnez, on vous donnera. Donnez, on vous répondra. Des gens qui n'ouvrent pas la porte à grand-chose ne peuvent recevoir de Dieu. Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et non pas être hostile lorsqu'il vient le temps de donner, surtout dans notre société nord-américaine, alors qu'on a tellement de choses. La Bible dit que si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin qui lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Les gens, des fois, sont hostiles à donner à l'Église, sont hostiles à donner aux pauvres, sont hostiles à tout, mais ils vont dépenser pour des choses qu'ils n'ont pas besoin. Ça, c'est notre société aujourd'hui. Une Église qui est bien gérée, et les gens qui donnent dans une Église qui est bien gérée, c'est profitable pour les œuvres chrétiennes, c'est profitable pour toutes les bénédictions spirituelles. Remarquez une chose, ceux qui prient beaucoup donnent beaucoup. Ceux qui prient beaucoup donnent beaucoup. Monsieur Georges Müller, né en 1805, décédé en 1898, directeur de l'orphelinat Ashley Down à Bristol, en Angleterre. Pendant une soixantaine d'années, avant qu'il devienne missionnaire, et après qu'il soit pasteur, il a soutenu, éduqué, logé plus de 18 000 orphelins dans sa maison, ouvert 117 écoles pour 120 000 enfants. Et il a récolté à l'époque, on parle à l'époque de 2 700 000 $ On parle de plus, il y a des. J'ai essayé de trouver, il n'y a pas un endroit qui donne le même montant. Il y a des endroits qui parlent d'aujourd'hui, ça représenterait peut-être 20 millions de dollars. Ce monsieur-là n'a jamais eu de salaire. Ce monsieur-là priait pour tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait avoir. Il mettait tout devant Dieu. Pendant un certain temps, ils lui ont donné un salaire, il a pris ce qu'il avait besoin pour nourrir sa famille, et le reste, il le donnait. À sa mort, il avait tout juste de quoi payer ses obsèques. C'est quelqu'un, un des grands hommes de Dieu en Angleterre. C'est quelque chose qui a fait d'extraordinaire. Prendre soin des orphelins, il a donné beaucoup de Bible, de Nouveau Testament, de tracts chrétiens, de pamphlets chrétiens. Et c'est quelque chose qui, lui a donné et Dieu a pourvu. Jamais il n'a demandé quoi que ce soit au gouvernement. Et la nourriture, l'argent arrivait tout le temps, même des fois à la dernière minute, mais l'argent arrivait. Alors, donnons. N'ayons pas peur de donner. Septième obstacle à la prière est une des principales. Mauvaise relation entre époux et épouse. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, justement, le verset que nous avions au départ. « Vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritière de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Peu importe la piété, peu importe le nombre de fois que vous allez à l'Église, peu importe les œuvres que vous faites, Dieu regarde le couple. Dieu regarde le couple. La première chose qu'il a faite, c'est il a dit, Adam, il ne faut pas qu'il soit seul. Je vais lui faire une aide. Il a pris deux personnes et la Bible dit que c'est une seule chair. Le Saint-Esprit est attristé quand il y a quelque chose dans le couple. Comme souvent on entend dire, le Seigneur exauce seulement ma femme, moi, c'est elle qui prie tout le temps, moi, il ne m'exauce pas. Non, c'est les deux ensemble. Le christianisme met le foyer familial à l'honneur. L'homme et la femme sont égales. Il y a des gens qui jouent la comédie à l'Église. Il y a des couples qui jouent la comédie à l'Église. Des épouses attrayantes à l'Assemblée, mais chamailleuses, irritables, amères à la maison. Des époux serviables à l'Église, mais bougonneux, autoritaires, durs à la maison. La vie chrétienne commence à la maison, avec l'époux et les enfants. Il faut être d'accord dans la famille afin que nous ayons une vie de prière efficace. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière efficace si ça ne fonctionne pas avec votre époux, votre épouse. Il faut vraiment être en accord. L'homme et la femme ne feront qu'une seule chair, l'unité. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, on dit que la lune de miel devrait durer toujours. C'est bon ça, hein? Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Même pour un couple où il n'y a qu'un seul converti. La Bible dit, ne sais-tu pas, femme, si tu gagneras ton mari à Christ? En priant pour lui, mais également par une bonne conduite, et non pas en lui disant que s'il ne se convertit pas, il ira en enfer. Il y avait une femme comme ça, dans un autre pays, qui restait à la maison, une femme chrétienne, et son mari était inconverti. Alors, ce qu'elle a fait, elle a pris plusieurs versions de Bible, puis elle a mis plusieurs versions de Bible dans le salon. Alors, quand le mari passait dans le salon, c'était comme si c'était un genre de slalom. Il évitait une Bible, il continuait, il évitait l'autre Bible, il voyait les Bibles un peu partout, puis là, il essayait de les éviter, puis là, il passait par le salon, puis il s'en allait, puis il n'ouvrait aucune Bible. C'est un genre de slalom comme en ski. Quand elle a compris le message, de la Bible, de par sa conduite, son mari qu'elle aimait naturellement, elle a changé sa façon de faire. Elle a commencé à préparer un repas, étant donné qu'elle était à la maison, son mari travaillait. C'est elle qui cuisinait, elle a préparé un repas que son mari aimait. Elle lui a téléphoné au bureau. Et elle lui a dit « chérie ». Elle a commencé à l'appeler « chérie ». Et quand elle a commencé à l'appeler « chérie », son mari ne l'a pas reconnu. Il dit « c'est qui ?» Parce qu'il n'était pas habitué d'entendre cela. Là, elle lui a dit qu'elle avait fait tel repas pour lui le soir, que c'était son repas préféré. Et le mari, quand il a vu ça, il a dit à sa secrétaire, il dit, il y a quelque chose, il dit, il y a un miracle à la maison. Il dit, il se passe quelque chose d'inhabituel à la maison. Il dit, je m'excuse, mais il faut que je parte à la maison, il y a un miracle présentement. Alors, il est arrivé à la maison. Il a vu leur pas, il a vu le lit qui avait été fait, tout était, elle l'attendait, elle l'appelait chérie, avec un esprit doux et paisible. Et c'est là qu'il s'est converti. Il dit là, toi t'es converti. Là, c'est là qu'il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Et non pas en mettant des bibles et toutes ces choses-là, par sa conduite. Quand on a quelqu'un qui est inconverti à la maison, c'est par notre conduite et non pas par des versets. Alors, si on a quelqu'un qui est inconverti, c'est par notre conduite, et c'est justement qu'on peut, c'est sûr qu'on n'est pas en accord avec cette personne-là pour la prière, mais par contre, par notre vie, par notre conduite, par nos prières, on peut amener cette personne-là au Seigneur. Mais pour quelqu'un, pour les deux personnes qui sont converties, il faut avoir un accord charnel et spirituel. Et ça, ça a une force dans la prière. Huitième obstacle, l'incrédulité. Jean, chapitre 1, verset 6. Celui qui doute ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. L'incrédulité, le manque de foi. Marc chapitre 11, verset 22. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez, prier pour une grippe, prier pour un petit rhume, et prier pour une guérison, pour un miracle, ce sont deux choses différentes. Ça prend de la foi. Prier pour un petit rhume, c'est plus facile que prier pour une guérison. Beaucoup de prières non exaucées par le manque de foi. La prière et la foi, c'est un processus aussi. Jésus a reproché quelque chose à ses apôtres, a dit « homme de peu de foi ». L'incrédulité. Oh non, tu ne seras pas capable, Seigneur, de faire ce que je te demande. Tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez puissant. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un grand Dieu. En son temps. Je reviens avec M. George Muller d'Angleterre, que nous avons parlé tout à l'heure. Alors, à un moment donné, il est sur un bateau. Il s'en va en Amérique et il s'en va justement à Québec. C'est un monsieur qui parlait anglais, qui parlait français, anglais, allemand, je crois. Et il vient pour une conférence à Québec. Et dans ce temps-là, les bateaux, c'est certain qu'il n'y avait pas de radar. Alors le capitaine était sur le pont et M. Muller va voir le capitaine, une autorisation pour voir le capitaine. Il lui dit, écoutez, il dit, j'ai un rendez-vous important. À Québec et le bateau ne va pas assez vite. Et je vais manquer mon rendez-vous et je n'ai jamais manqué mon rendez-vous avec Dieu. Jamais. Et le capitaine lui dit, écoutez, il y a le brouillard, c'est impossible. Le brouillard est tellement épais qu'on ne peut pas aller plus vite, c'est dangereux. Alors M. Muller a dit, écoutez, on va prier. On va descendre dans le fond du bateau. On va prier. Il savait que le capitaine, c'était quelqu'un qui croyait. Et ils ont descendu et il a fait une prière. M. Muller était un homme de Dieu, un homme qui priait facilement plus qu'une heure par jour. Lui, il disait que il vaut mieux prier une heure et travailler 4 heures que seulement travailler 5 heures. On fait plus en 4 heures avec 1 heure de prière qu'en 5 heures. Alors, il est descendu dans le fond du bateau, il a prié, il a demandé au Seigneur en 5 minutes, lui disons, il faut que le brouillard s'en aille, je veux arriver à mon rendez-vous, c'est une rencontre importante. Et il a prié, quand il a fini, le capitaine a prié lui aussi, et M. Muller a regardé le capitaine et dit, arrêtez de prier. Il dit, premièrement, vous ne croyez pas, parce qu'il a vu de la manière qu'il priait que le capitaine ne croyait pas que le brouillard s'en irait. Il dit, premièrement, arrêtez parce que vous êtes incrédule. Puis de toute façon, ma prière est faite et Dieu a répondu à ma prière. Alors, vous n'avez plus besoin de prier. Et quand il a remonté en haut, le brouillard a commencé à se dissiper. L'incrédulité. Et le capitaine, quelque temps plus tard, s'est converti. Quand il a vu cet homme-là, sa foi... en la prière, qu'est-ce qu'il avait fait. Alors, le capitaine du bateau s'est converti. Huitième obstacle, l'incrédulité. Souvent, on ne pense pas que Dieu est capable de le faire. Et si vous, votre prière, c'est quelque chose, vous priez pour quelque chose de grand, quelque chose de que vous-même, vous êtes un petit peu, vous ne savez pas, Ce n'est pas une question de temps. Dieu n'est pas limité par le temps. Alors, il y a des gens qui ont prié très, très longtemps pour une chose. Alors, il faut avoir foi à ce qu'on demande. Amen. Neuvième raison, neuvième obstacle, et le dernier, le relâchement. Jésus, dans Luc chapitre 18, verset 7, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La Bible dit que c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Nous manquons de persévérance. Comme j'ai dit la semaine passée, nous ne voulons pas, nous ne persévérons pas dans la prière. Il y a des gens qui ont prié des années, des années, des années pour le salut de quelqu'un. Je disais dernièrement, une personne a prié pour, écoutez, je peux me tromper là, je crois pour 6 à 8 personnes là. Et c'est un processus, elle a pris à peu près 60 ans. Et les gens ont été sauvés. Le relâchement. Il ne faut pas se relâcher. Je suis toujours intrigué, et ça, ça ne fait pas tellement longtemps, par un insecte. L'abeille. Il y a plusieurs sortes d'abeilles, mais il y a une abeille, vous savez, les abeilles ont plusieurs fonctions. L'abeille, c'est tellement intéressant. L'abeille qui récolte le pollen. L'abeille qui récolte le pollen est très occupée, ne dort presque pas, vit entre 4 et 6 semaines. Savez-vous que pour produire une livre de miel, on doit visiter 56 000 têtes de fleurs. Et souvent, on revient à la même fleur 60 fois. Alors, ça prend 3 360 000 visites pour une livre de miel. Produire une petite cuillerée à thé de miel, vous savez, la petite cuillerée à thé qu'on va tartiner nos rôtis, là, la petite cuillerée qu'on prend ça d'un doigt, puis on peut mettre ça dans sa bouche, goûter, puis c'est parti. Ça prend 4200 voyages. Les abeilles vont faire pour un kilo de miel, les abeilles vont faire 100 000 kilomètres. Elle peut aller jusqu'à 8000 pour trouver une fleur. Et peut visiter 250 fleurs par heure. On dit que dans sa vie, l'abeille va voler 3 fois le tour du globe. Ça, c'est ce qu'elle peut faire. Mais je vais vous parler de d'autres choses, ce que l'abeille est. C'est extraordinaire ce que l'abeille peut faire. Ce que l'abeille est. On dit que je peux peut-être glisser, là. Dans ses pattes arrière, je crois qu'elle peut prendre 500 000 pollens dans une de ses pattes arrière. Alors, l'abeille ne relâche jamais. Pourtant, on va voir une abeille, puis on veut pas qu'elle nous pique, ou on va donner une petite pichenote dessus, on va l'écraser avec nos mains, ou si on peut l'écraser avec une tapette à mouche, et piler dessus. Puis ça ne nous dérange pas, on dit « bof, une abeille ». Êtes-vous capable de faire ce que l'abeille fait? De ne pas se relâcher comme l'abeille fait? C'est extraordinaire ce qu'une abeille peut faire. Le relâchement, ne point se relâcher. Alors, en conclusion, Dieu veut nous exaucer, mais attention aux obstacles. Il y a beaucoup de prières qui ont été perdues pour plusieurs facteurs. Des prières, ça se perd. C'est de valeur à dire, mais des prières, ça se perd. Ce n'est pas un automatisme. Dieu n'est pas un robot. Nous devons comprendre les Écritures concernant l'exaucement des prières et nous devons être enseignés et de comprendre pourquoi souvent les prières ne sont pas exaucées. Il faut mettre notre orgueil de côté, nous humilier devant Dieu avant chaque temps de prière et demander au Saint-Esprit une direction et de lui demander s'il y a des choses qui font obstacle et ne pas se lasser devant Dieu. Mais Dieu va répondre en son temps. Dieu va répondre pour quelque chose en son temps. Et toujours demander, les sujets de prière doivent être conformes aux Écritures. Et non pas des choses futiles, des choses inutiles pour Dieu. Souvenez-vous que la prière est un rapprochement vers Dieu, est une communication vers Dieu. On va le voir plus en détail la semaine prochaine. Alors, bien important de comprendre qu'il peut y avoir des obstacles et nous devons remédier à cela. Amen.